Où en est l'écoféminisme aujourd'hui ? Lors du dernier épisode, je vous ai amené à la découverte des origines du mouvement et de celle qui a imaginé ce terme pour la première fois, Françoise Daubonne. Si ce courant de pensée commence à décliner dans les années 80, du moins dans le nord du monde, il semble vivre une renaissance depuis la fin des années 2010, portée par une nouvelle génération et de nouveaux enjeux sociaux. Ce regain de popularité, j'ai pu le constater en 2022 à Caen, lors d'un colloque consacré à la femme de lettres. Je suis Simon de Radio Campus Angers et vous écoutez Génération plus 3 degrés, une série de 3x3 épisodes de Radio Phoenix, Radio Campus Angers et Radio Campus Orléans. Et pour cette première trilogie, je vous parle d'écoféminisme. Parmi les représentants de cette nouvelle génération écoféministe, la journaliste Manon Aubel. Elle préparait à l'époque un documentaire sur Françoise Daubonne. Je l'ai retrouvé, 4 ans après, à la librairie féministe Les Bien-Aimés à Nantes.
J'ai commencé ce projet en faisant moi-même un projet de photographie. Inspiré par le livre de Mona Chollet « Chez soi ». Et donc à l'époque, j'avais un peu l'envie de faire des portraits de différentes personnes à travers des miniatures de leur lieu, des photographies de détails de leur maison, de leur lieu de vie. Et je m'intéressais à comment est-ce qu'on vit aujourd'hui, quelle conscience on a de nos lieux de vie et de finalement l'organisation de nos vies, l'organisation quotidienne de nos vies, comment on dispose... la manière dont, comment on dort, comment on mange, j'avais vraiment cette curiosité-là au moment où je rentre dans l'écoféminisme. Il se trouve que j'avais aussi un enfant de 3 ans chez moi, puis j'étais vraiment en pleine interrogation sur comment on organise la vie. Et parmi ces portraits, j'ai rencontré Vincent Daubonne, le fils de Françoise Daubonne. C'est-à-dire que je suis arrivée chez lui et j'ai commencé à faire des images, on a discuté, puis il m'a parlé un peu de cet héritage particulier d'être le fils d'une féministe comme Françoise Daubonne, qui est un des sujets du film. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu l'idée de travailler sur l'écoféminisme qui, en fait, résonnait de plein de manières chez moi et aussi par des lectures. Donc, il y a ce livre Reclaim aux éditions Cambourakis. C'est un recueil de textes et poèmes compilés par Émilie H. Et aussi ce livre que Vincent m'avait recommandé quand je l'ai rencontré, qui s'appelle « Françoise Daubonne et l'écoféminisme » de Caroline Goldblum, qui est aussi une intervenante dans le documentaire, et qui m'avait aussi vraiment mis sur la piste de cette synthèse entre l'héritage de cette écrivaine et la pensée contemporaine écoféministe.
La pauvre mère est au supplice, lui à Saint-Germain est prêt. Le temps court, il court, il court, il court trop vite le temps.
Et si cette pensée est contemporaine, c'est bien parce qu'elle répond à des enjeux contemporains. D'ailleurs, l'écoféminisme est un peu partout dans les problématiques actuelles.
Parler de ce sujet, ça parle de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Donc déjà, est-ce que c'est écoféministe de dire ça ? J'ai découvert que ça l'était, puisqu'il se trouve que ce film circule principalement depuis sa sortie dans des réseaux féministes qui luttent contre l'invisibilisation de la pensée des femmes. Donc il y a déjà un enjeu à se dire, est-ce qu'on est dans une société qui représente les récits des femmes, qui représente les femmes artistes, et dans une société égalitaire, enfin tout simplement. On voit bien que c'est pas le cas quand on s'intéresse un tout petit peu aux statistiques et aux chiffres. Là, je rentre du Salon du Matrimoine à Lyon, où on se rend compte, en fait, on vit tous et toutes dans un petit déni sur cette question, parce qu'on vient d'une école républicaine où on nous dit qu'on est tous égaux les uns les autres, mais en réalité, on voit très bien que c'est pas le cas. Donc c'est juste quand est-ce qu'on est d'accord pour sortir du déni, regarder les statistiques, s'interroger, enfin... En tant que féministe, moi, je vois très, très bien qu'il y a plein de points de bascule à plein de moments de la vie où les gens se rendent compte. De toute façon, quand c'est pas à la retraite, c'est au moment de la naissance d'un enfant. Quand c'est pas au moment de la naissance d'un enfant, c'est lors d'un trauma d'enfance. Donc, il y a plein de moments de la vie où on se dit « Waouh, mais dans quelle société on vit, là ?» Donc, il y a des personnes plus ou moins préservées par ça. Et en fait, je trouve que c'est le principal lien avec l'idée de conscience politique. C'est que quand on traverse des épreuves difficiles, on a besoin de prendre un peu de recul. Et donc, c'est là qu'on se dit, est-ce que j'ai envie de participer à ça ? Quand on voit un petit peu plus clairement ce qui crée cette violence.
Il était 5 heures à Grenade, en plein soleil, je le crois bien, dès l'âge t'en donnait l'estocade. coup de feu dans les reins.
Aujourd'hui, on voit vraiment de quelle manière ça continue de cheminer, d'être vraiment questionné profondément. Et je pense qu'on n'a pas fini de parler de tout ça. Donc il y a vraiment la dimension du genre, je dirais. Sur le plan écologique, il me semble que la question du nucléaire aussi est toujours hautement d'actualité. Et là, j'ai pas de réponse. Je veux dire, moi, ça a été un point d'entrée pour moi dans ce film d'aller sur le terrain d'un projet d'enfouissement de déchets nucléaires et de me dire, waouh, j'arrive là juste simplement pour faire des photos. Donc, c'était il y a 10 ans. Je suis enceinte de ma fille qui aura bientôt 10 ans. Et juste de voir, de ressentir ce lieu, la mobilisation de toutes ces personnes qui arrivent des quatre coins de la France pour s'opposer à ce projet. Et moi, j'y connais rien à l'époque et je suis juste enceinte et je le mentionne parce que voilà, le rythme biologique du corps humain de faire grandir un enfant, c'est une temporalité qui n'a rien à voir avec celle des déchets nucléaires. Et je trouve que le parallèle est intéressant. Quand on parle d'enfouissement de déchets nucléaires, c'est parce que c'est une échelle de temps qui nous échappe. On a même pas accès à ça. On ne sait même pas comment on transmet des textes au-delà de quelques milliers d'années, en fait. Donc, comment on peut faire avec des déchets nucléaires sur des centaines de milliers d'années? Enfin, d'un point de vue anthropologique, c'est un non-sens. Et évidemment, je ne suis pas la seule à le dire. Il y a plein de penseurs, penseuses qui avant même d'entrer dans les questions techniques, puisque c'est une aberration, est-ce qu'on pourrait partir de là pour se dire qu'on peut faire autrement plutôt que de se dire « mais si ça marche, poussons un peu plus loin le côté grandiloquent des prochains projets ». Donc c'est une autre manière de l'aborder. Et je pense que ça reste quelque chose à résoudre, d'assez majeur. Et voilà, après, tout le plan, sinon, sur l'écoféminisme, de comment la question du pouvoir, en fait, que Dauban parle vraiment de neutraliser le pouvoir plutôt que de renverser, que les hommes et les femmes soient en perpétuel conflit. C'est vraiment la question de comment on peut penser différemment le lien que l'oppression, le pouvoir, ce que fait le système capitaliste, en fait. Donc qu'est-ce que ce serait une société post-capitaliste dans laquelle on réorganise le rapport à la vie, aux ressources, d'une autre manière? Est-ce que c'est possible? Moi, je pense qu'il y a plein d'exemples qui montrent que oui, mais comment le penser à l'échelle dans laquelle on est aujourd'hui mondialisé? Ça demande d'être assez créatif et il y a peut-être plein de réponses à trouver. Et en tout cas, ça va faire partie des enjeux auxquels on va se confronter du fait des crises et des guerres qui sont déjà, en fait, en cours. Donc, en fait, on est déjà en train d'être très créatif vis-à-vis de ça. C'est juste que le capitalisme continue d'être très ravageur, destructeur, le patriarcat aussi. On voit de quelle manière c'est imbriqué de mieux en mieux. Et donc, comment faire pour survivre et trouver des réponses plus satisfaisantes?
On va discuter, on va s'engueuler, et personne ne va écouter.
Mais alors, comment se traduit-il aujourd'hui? Comment faut-il agir? La nouvelle génération est peut-être celle qui détient les clés. D'ailleurs, elle commence déjà à se mettre en marche, et de nouvelles manières de faire émergent.
Pour moi, l'écoféminisme, il doit se traduire effectivement par des actions et un engagement. Et je pense que la meilleure manière de l'observer, c'est finalement de constater l'alignement entre des valeurs et des actions. Enfin, moi, c'est ce que je regarde souvent quand je regarde la jeune génération militante, c'est vraiment l'incarnation de personnes qui ont déjà ces valeurs et qui sont déjà en train d'inventer, et par les actes, par des organisations, des propositions, des manières de faire ensemble, ouais, même de penser collectivement dans des collectifs qui sont pas dans des hiérarchies habituelles. Enfin, déjà, c'est déjà dans une forme d'intelligence collective, en fait. C'est déjà à l'œuvre et je pense que c'est... Il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Enfin, moi, je commence à l'expérimenter et à même découvrir, en fait, des manières de faire qui sont beaucoup plus à l'écoute des de formes de constellations aussi entre organisations. Et du coup, ça permet de garder espoir, de se dire qu'il y a ce mouvement continu des choses et qu'en fait... après, il ne suffit pas de le dire, effectivement. Il faut aussi de l'incarner, l'engager, mais... C'est des pensées qui sont plus fertiles, en fait. Donc, c'est plus joyeux, en fait, quand on regarde les populismes et tout. C'est toujours sinistre. Il y a de la violence, il y a de l'oppression. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on a envie de vivre dans des mondes comme ça? Moi, j'ai pas envie de défendre ça, évidemment. Donc, moi, j'ai envie d'avoir confiance en le fait que les personnes qui vivent sur des territoires ont les meilleures solutions pour ces territoires. Et ça, c'est une forme d'écoféminisme, déjà de se dire, voilà, à mon échelle humaine, où est-ce que j'appartiens. C'est pas revenir en arrière, c'est juste se réancrer, en fait. Voilà, d'un point, pour être un peu synthétique, la génération de nos parents, nos grands-parents, enfin, moi j'ai 40 ans, donc je vois ce que ça a produit déjà de déracinement sur deux générations, ce capitalisme et cette mondialisation effrénée. Donc est-ce qu'il ne serait pas temps, et je pense que parfois, bah, ailleurs dans le monde, certaines personnes n'ont pas le choix, mais je veux dire, nous qui vivons dans des économies mondialisées où le capitalisme est, bah, organise nos vies, est-ce qu'il n'y a pas justement aussi à penser la question de comment, quel rapport on a au lieu, vraiment, je pense que c'est intéressant vraiment de d'investir ces questions-là.
L'écoféminisme ne peut difficilement se dissocier de la figure de Françoise Debonne. À l'image du mouvement qu'elle a incarné, sa figure revient sur le devant de la scène et trouve une place auprès des jeunes générations, comme le remarque son fils Vincent, que je retrouve chez lui.
La place de Françoise, elle en a plusieurs. Auprès des jeunes générations, et quand je dis jeunes générations, je pense à des gens que je croise à partir de 13-14 ans, c'est une figure inspirante. C'est-à-dire que ça donne l'impression, et notamment dans le monde queer, ça donne l'impression d'avoir une grand-mère, de ne pas être seule face au monde, face à un monde de plus en plus anxiogène, c'est pas rien de le dire, et que d'autres ont lutté avant. Elle rappelle ça. Et ces personnes, en cherchant, vont en trouver d'autres, parce que la filiation de Françoise, elle ne s'est pas arrêtée. On pourrait remonter d'étape en étape, à montagne, et bien avant, etc. Mais ça donne un sentiment d'enracinement. C'est peut-être ça le plus important, au-delà même des idées, de leurs formulations, qui, elles, sont de passage. Les choses évolueront. La deuxième, c'est de rappeler qu'à un moment, il faut être suffisamment radical et voir suffisamment loin pour pouvoir produire une critique globale. L'écoféminisme de Françoise Debonne n'a jamais été un peu de développement durable avec un peu d'égalité universaliste. Certainement pas. Si elle ne s'est pas exprimée face à certains courants plus ou moins réactionnaires du féminisme parce qu'elle avait bien d'autres choses à faire, c'était profondément et radicalement une révolutionnaire. Elle l'a toujours revendiqué. Et elle l'a revendiqué, mais elle a surtout poussé l'analyse pour expliquer en quoi le système n'était pas réformable. Donc c'est un héritage aussi de position à tenir.
Baiser, 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 soyez baiser, aimez l'amour tout comme vous le voulez.
C'est au milieu des années 2010, notamment à la suite du mouvement MeToo, que, selon Vincent Debonne, renaît la figure de Françoise. Aujourd'hui, c'est dans le monde entier qu'on parle d'elle.
Elle est morte en 2005. Caroline Goldbloom a commencé à travailler, elle était la seule, en tant qu'universitaire, pour en faire un doctorat, à travailler en 2007. Mais c'est à partir de 2015 que vraiment on a commencé à voir émerger des choses, et c'est depuis 2018 ou 2020 que ça s'est répandu, que les rééditions se sont faites en nombre, et qu'on commence à en parler vraiment dans le monde entier. Quand je dis dans le monde entier, justement, c'est pas seulement dans le Nord global. Ces livres sont à l'université de Camichlo, donc au Rojava. J'ai des amis en Argentine, j'ai cité des noms de peuples, etc., pour expliquer en quoi l'écoféminisme n'avait pas une vocation universaliste eurocentrée. Néanmoins, quand je fouille correctement, il suffit de fouiller correctement sur Google et de peigner les langues, on trouvera des textes en arabe, on trouvera des textes en hindi, des textes en ourdou, partout. Partout, on rappelle, elle est citée, au moins citée, comme effectivement fondatrice de l'écoféminisme, etc. Et puis ensuite discutée selon l'accès à ses livres. Et ça, c'est très récent, c'est les 5-6 dernières années. Ça s'est répandu dans le monde comme une traînée de poudre.
Pègres trembleurs qui voulaient tous du fade, prêtez les gourdes à mon dur boniment.
Et pour expliquer ce retour sur le devant de la scène, Vincent Debonne estime, comme la philosophe Catherine Larère, que nous vivons un changement anthropologique. Un changement qui pousse à mobiliser à nouveau l'écoféminisme.
Le changement anthropologique en question, c'est une profonde remise en cause des rapports de sexe qui régissent nos sociétés, et pas seulement les nôtres. puisque en discutant avec les copines dans d'autres cultures, leur lutte, elle est double, elle est contre le colonialisme, dans les luttes décoloniales, mais elle est aussi contre le patriarcat interne à leur propre culture. Elle mène souvent cette double lutte. Donc il y a quelque chose de profond qui est en train d'agiter la société mondiale, les sociétés, qui se passent le mot, parce qu'il y a un instinct comme quoi, si on ne trouve pas une solution d'équilibre, de rééquilibre et de redéfinition un petit peu des rapports sociaux, on ne trouvera pas non plus de solution par rapport à la planète. Cet instinct-là, il s'enracine de plus en plus profondément.
Le retour en avant des idées écoféministes, en particulier dans les pays du Nord, comme la France, fait évidemment entrer Françoise de Bonne dans la grande histoire mémorielle de ce pays. Pour preuve, dans le salon de Vincent, trône une plaque de rue au nom de sa mère.
C'est un morceau de la rue Mouton-du-Vernay qui part de la mairie du 14e et qui a été débaptisé pour prendre le nom d'allée Françoise de Bonne quand la mairie du 14e a transformé l'abord direct de la mairie en parc. Et donc la rue Mouton-du-Vernay traverse et c'est devenu l'allée Françoise de Bonne. Il y en a une à Paris, il y en a une à Lyon, il y en a une à Toulouse, il y en a une à Nantes, il y a une esplanade à Hyères depuis le 8 mars. D'autres projets, son nom ressort régulièrement dans les nominations de rue en France. Ouais.
Un passant, le cœur plein d'alarme, voyant qu'il respirait encore, vite allons chercher les gendarmes, peut-être bien qu'il n'est pas mort.
Des rues à son nom un peu partout, mais la trace que laisse aujourd'hui Françoise de Bonne, c'est particulièrement dans le milieu militant qu'elle est visible.
Alors, ça n'est pas que son héritage, mais ce que je vois de plus concret, c'est la manière dont les collectifs cherchent des solutions pour prendre soin d'eux-mêmes. Ça, c'est nouveau. Parce que qu'est-ce qu'on s'est fait mal dans les années 70-80 en tant que militant ? C'est la question là où ça n'est pas le sujet primordial de la... C'est la question de la prise en compte des genres, des paroles, etc., dans des lieux et dans des collectifs ou dédiés totalement à d'autres sujets parfois, qui est beaucoup plus élaboré que nos tentatives malhabiles de ces années-là. Et ça, c'est un héritage des écoféministes principalement, beaucoup plus que des féminismes universalistes traditionnels. Parce que dans cet héritage, il y a tout le retour aussi de la question du pouvoir au sein des collectifs. Fut un temps où, quand tu prononçais le mot pouvoir, tu passais pour un art et tu étais totalement marginalisé. Il n'existait que des organisations verticales. Aujourd'hui, ce qui fait le vivier des luttes, ça n'est plus les organisations verticales. Ça aussi, c'est un de ces héritages-là, plus encore que celui des mouvements anarchistes.
Un militantisme moderne, un militantisme porté par une nouvelle génération. Mais cette nouvelle génération, comment s'empare-t-elle de la figure de Françoise de Bonne et des enjeux écoféministes ? Ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain et dernier épisode de cette première trilogie. C'était Génération plus 3 degrés, une série audio proposée par Radio Campus Angers, Radio Campus Orléans et Radio Phoenix. Archives sonores, La Chaisière de Saint-Sulpice, à Federico Garcia Lorca, Les Réunions de l'Odéon, Descente à Tours, De la Senère, Le Pendu de Saint-Germain, interprété par Françoise de Bonne et à retrouver sur le site françoise-d-aubonne.org.